Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il n'a échappé à personne, bien sûr, que le temps de la mondialisation heureuse, comme on l'appelait, est désormais bien loin derrière nous. Si à ses débuts, la mondialisation a pu susciter un immense espoir, désormais, ce sentiment a laissé la place à davantage à l'inquiétude. Lorsque l'on évoque la mondialisation, aussitôt on l'associe à une série de crises diverses, crises économiques et sociales bien sûr, crises financières, crises migratoires, crises identitaires, j'en oublie, mais peu importe, tel est en tout cas le tableau, celui d'une angoisse face aux forces que déchaîne ce phénomène, non pas inédit dans l'histoire de l'humanité, mais inédit par sa rapidité probablement. Faut-il toutefois se résoudre à cette vision désenchantée? Telle n'est en tout cas pas l'attitude de notre invité. Nous avons en effet la chance de recevoir aujourd'hui Mireille Delmas-Marty. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné le droit à l'université, vous avez été titulaire de la chaire études juridiques comparatives et internationalisation du droit, ce qui nous place d'ailleurs d'emblée dans le sujet de votre ouvrage, car vous venez de publier aux quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation, où il est précisément question des moyens qui pourraient être mis en œuvre, et notamment juridiques, pour dompter ces forces et les rendre positives cette fois. Est-ce bien cela ?
C'est bien cela.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme d'internationalisation du droit ? D'habitude, on parle de droit international, mais pas d'internationalisation du droit.
Oui, alors, vous faites bien de démarrer sur ce terme, parce qu'il est très important dans ma recherche. Il exprime, en fait, l'idée d'un processus, c'est-à-dire d'un mouvement. Ce n'est pas le droit international comme catégorie juridique, qu'on oppose d'ailleurs au droit interne. L'internationalisation, c'est le mouvement qui va de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est un terme qui désigne des interactions entre les droits internes, les droits nationaux, le droit français, le droit allemand, le droit américain, etc., et les corpus de droit international qui sont eux-mêmes très divers et très fragmentés. Il y a les droits des droits de l'homme, il y a le droit de l'environnement, il y a le droit du commerce, etc. Ce qui fait que la mondialisation n'a jamais été si heureuse que cela. Il y a toujours eu des contradictions entre, d'un côté, le droit des droits de l'homme, qui remonte très loin, qui remonte à 1948, la Déclaration universelle, et puis, d'un autre côté, un droit du commerce qui est beaucoup plus récent, mais qui a pris le pas sur les droits de l'homme à partir de la création de l'Organisation mondiale du commerce. Donc il y a toujours eu des contradictions, mais elles sont plus violentes, sans doute, à l'heure actuelle. C'est pourquoi il m'a paru nécessaire de placer mon livre dans une perspective dynamique.
Le titre même évoque ce dynamisme aux quatre vents du monde. Et de fait, lorsqu'on pense à la mondialisation, désormais, on a cette image que vous reprenez, une image maritime d'un lieu où des vents contraires s'entrechoquent, créent des turbulences. Et face à ce phénomène, vous nous proposez d'ailleurs de naviguer en recourant à une rose avec des points cardinaux. Quels sont-ils ?
Alors, en fait, j'ai appelé le livre « Aux quatre vents du monde ». C'est un peu plus compliqué que ça, parce que finalement, les quatre vents sont huit vents. Mais les quatre principaux, effectivement, correspondent à des pôles apparemment contraires. D'un côté, liberté, de l'autre, sécurité. D'un côté, compétition, de l'autre, coopération. Ce sont les quatre vents dominants. Et puis, entre les vents dominants, j'ai situé quatre autres dispositifs qui sont d'un côté l'innovation, de l'autre la conservation, d'un côté l'exclusion, de l'autre l'intégration. Et au fond, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la mondialisation était prise dans les tourbillons de vent contraires, et que le risque, là j'ai continué à utiliser la métaphore maritime, le risque serait qu'elle se retrouve dans ce qu'on appelle le poteau noir. Le poteau noir, c'est un endroit redoutable et redouté, surtout au temps de la marine à voile. C'est un endroit où les alizés du nord rencontrent les alizés du sud, donc des vents en sens contraire, extrêmement violents. En gros, c'est autour de l'équateur. Et le résultat est intéressant, c'est que soit le navire est paralysé, parce que les vents contraires se neutralisent, donc il n'y a plus de souffle. Il est encalminé, comme on dit dans le langage de la marine. Ou alors, l'autre risque, c'est de couler, faire naufrage, parce que les vents contraires font couler le navire. Et j'ai trouvé que c'était peut-être une image intéressante, à un moment où, à l'échelle européenne, on le voit particulièrement bien, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, on a l'impression soit d'une paralysie, soit d'un risque de naufrage. Donc c'est un peu pour alerter, déjà, que j'ai choisi cette image de la rose des vents.
Nous sommes dans le poteau noir, donc.
En tout cas, il vaut mieux ne pas trop s'en rapprocher. Je craindrais qu'on s'en rapproche, et notamment au niveau de l'Europe, mais également au niveau mondial. Parce que les contradictions sont fortes. Alors, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est comment on peut malgré tout naviguer. Comment on peut malgré tout naviguer, utiliser les tensions pour en tirer une certaine énergie qui permet d'agir. C'est pour ça que le livre se termine par un chapitre sur les acteurs de la mondialisation et leur rôle. Mais il commence par faire un peu l'inventaire de la situation.
Vous le faites en traitant un certain nombre de dossiers spécifiques qui sont concrets, ceux-ci.
Voilà, j'ai voulu faire un travail aussi concret que possible en choisissant des exemples, en choisissant des domaines dans lesquels les pratiques sont déjà globalisées ou mondialisées et appelleraient une réponse organisée à l'échelle mondiale, qui souvent n'existe pas ou devient impossible. Alors, j'ai commencé par deux exemples qui sont un peu les deux pôles extrêmes de la mondialisation des phénomènes de société. C'est d'un côté le terrorisme qui devient global, et d'un autre côté le dérèglement climatique qui est de nature, à l'évidence, global. Alors, dans les deux cas, on s'aperçoit très vite que traiter la question, qu'il s'agisse du terrorisme global ou du dérèglement climatique, de façon efficace, ne peut pas être fait au niveau d'un seul État, ni même d'une région. Il y a des dispositifs au sein de l'Union européenne dans les deux domaines, mais il est clair que ça n'est pas suffisant. Donc on a deux domaines dans lesquels il me paraît évident que la réponse passerait par une gouvernance mondiale, comme on dit quelquefois, pour marquer le fait qu'il n'y a pas un gouvernement au sens politique, mais qu'il peut et qu'il devrait y avoir une gouvernance mondiale. En même temps, ces deux exemples permettent aussi de montrer que les solutions sont très diverses sur le terrain. Parce qu'en matière de dérèglement climatique, on est en train d'essayer de mettre en place effectivement une gouvernance mondiale, et ça c'est quand même quelque chose de nouveau et d'extrêmement intéressant à observer, un peu comme un laboratoire de ce que pourrait être la mondialisation de demain, c'est-à-dire qu'un laboratoire, ce n'est pas un modèle à suivre, c'est un endroit où on observe ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc de ce point de vue-là, le dérèglement climatique est, je dis de façon un peu provocatrice, peut-être une chance pour l'humanité, une chance parce qu'il donne l'occasion de tester des méthodes et de les mettre au point. En revanche, le terrorisme qui devient global parce qu'il est sans frontières, et de ce point de vue-là, les terroristes utilisent largement les nouvelles technologies qui permettent au terrorisme de s'épanouir au-delà des frontières. On sait qu'il y a dans les camps d'entraînement en Syrie, par exemple, il y a en Irak, il y a quelques 100 pays qui sont représentés. Les combattants étrangers qui se forment dans ces camps viennent de plus de 100 pays. Donc on mesure le caractère global de ce phénomène, mais en même temps les réponses sont restées nationales, souverainistes. Le monopole du droit de punir reste fortement attaché aux États souverains. Donc là, il n'y a pas de gouvernance mondiale qui se mette vraiment en route. Il n'y a d'ailleurs même pas d'accord sur la définition du terrorisme. Donc, à travers ces deux exemples, j'ai essayé de montrer que les réponses étaient très diverses à un phénomène qui, lui, est bien le même.
Oui, car mettre le doigt sur le fait que tel ou tel problème exige une réponse mondiale et des instances qui permettent de le gérer à cet échelon-là, c'est une chose, mais ce que vous décrivez, c'est que lorsqu'on a dit ça, on n'a pas épuisé le problème, car chacun de ces dossiers est sur un axe de tension qu'on retrouve sur votre rose des vents. Notamment, terrorisme, on est sur l'axe de tension, liberté, sécurité, si je comprends bien.
Oui, alors c'est d'ailleurs un axe qui existe avant le terrorisme, qui existait déjà. On a eu, il y a 1980, en France, une loi qui s'appelait Sécurité et Liberté, tout au moins c'est le surnom qu'on lui avait donné, mais qui mettait déjà en tension sécurité et liberté, qui essayait de dépasser la tension. Alors le terrorisme montre cette tension de façon exacerbée. Et il y a une tendance de courant qu'on appelle d'ailleurs parfois sécuritaire, à dire mais c'est pas une tension, en réalité il faut assurer d'abord la sécurité, c'est la première des libertés, et donc subordonner les libertés à la sécurité, au besoin les supprimer, déroger, exclure certaines libertés. C'est le courant dit sécuritaire.
C'est un processus qui est largement en cours.
C'est un processus qui est largement en cours. On pourrait dire que la bifurcation s'est faite déjà en 2001. Je pense qu'il y a vraiment une bifurcation avec les attentats du 11 septembre 2001. D'abord, c'est la première fois que le terrorisme est de façon aussi visible globale, préparé dans différents pays du monde, avec des victimes de tous les pays du monde, avec l'utilisation des nouvelles technologies. Donc c'était un acte global de terrorisme. Et pourtant, la réponse a été nationale.
Déclaration à la fois nationale et planétaire.
Au début, elle a été nationale, déclaration de guerre au crime de terrorisme. Mais très vite, les États-Unis ont été obligés de faire appel à l'ensemble des pays. C'est la fameuse délocalisation des internements, des camps d'internement et de la torture. Alors, tout cela étant construit autour de l'idée que la sécurité doit passer avant, à tel point qu'aux États-Unis toujours, l'administration américaine a très vite admis l'utilisation de la torture, donc l'atteinte à un droit fondamental qui, dans les textes internationaux, est un droit dit indérogeable, ce qui signifie qu'on ne devrait pas pouvoir déroger même en cas de guerre, même en cas de terrorisme. Et ce droit fondamental, c'est le droit à la dignité de la personne et de la légale dignité de tous les êtres humains. Alors ça a été bafoué ouvertement. Donc l'équilibre, on est très loin d'un équilibre entre sécurité et liberté. En même temps, les effets secondaires sont très négatifs. Parce qu'on a vu ce terrorisme se propager, on n'a pas éradiqué, comme on l'avait annoncé. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion que nous avions eue de juristes à New York en janvier 2002, juste après les attentats. Et les Américains venaient d'adopter le Patriot Act, qui, du point de vue de la protection des libertés, pose quelques problèmes. Il commence en transférant les pleins pouvoirs au président, en se transférant des pouvoirs des tribunaux à des commissions militaires, etc. Et j'avais posé la question, à l'époque, on avait un programme de formation à Paris pour des juristes chinois sur la formation à l'état de droit. Et j'avais demandé à mes collègues américains, alors qu'est-ce que je vais leur enseigner si la plus grande démocratie se permet ce type de pratique ? Est-ce que c'est ça l'exemple que je dois donner à mes collègues chinois ? Il m'avait dit non, mais ne vous faites pas de soucis, c'est une période tout à fait transitoire. Dans 6 mois, tout sera réglé et on sera revenu à l'état de droit. En 6 mois. Et vous voyez, nous sommes bientôt en 2017 et rien n'est encore réglé. Et en revanche, il y a eu une extension, une sorte d'effet de contamination dans un certain nombre de pays de la pratique des États-Unis. Alors effectivement, la France est maintenant en première ligne.
Oui, avec un état d'urgence qui devrait être là aussi limité dans le temps et dont on ne voit pas très bien s'il ne va pas s'étendre indéfiniment tant que la menace est là.
C'est la crainte qu'on peut avoir parce que comme on a... Le terrorisme ne peut pas être éradiqué, la menace terroriste ne peut pas disparaître, on ne peut pas arriver à garantir une société sans aucun risque de terrorisme. Donc si on soumet l'état d'urgence, si on fait un lien entre l'état d'urgence et la garantie d'une absence de risque, ben l'état d'urgence va être renouvelé de 6 mois en 6 mois. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, depuis la promulgation de l'état d'urgence. Alors, au moment du premier attentat de Paris, je pense qu'il était normal d'utiliser cette notion d'état d'urgence qui avait été créée, je le rappelle, non pas dans la Constitution de 1958, mais avant, par une loi de 1955 à l'époque de la guerre d'Algérie. Et c'est un texte dont on avait hésité sur la question de savoir s'il restait en vigueur après la Constitution de 1958, mais le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de trancher la question. Donc on l'avait utilisé très peu, ce texte. On l'avait utilisé essentiellement pour la Nouvelle-Calédonie et pendant très peu de temps. Et on l'avait utilisé à propos de certaines manifestations dans les banlieues en 2005, je crois, mais ça n'avait pas duré non plus. En revanche, là, la déclaration en elle-même était tout à fait fondée, mais sa prorogation ne l'était pas, à mon sens en tout cas. Parce que le résultat, c'est qu'on a un droit d'exception. Le texte sur l'état d'urgence dit qu'il faut que le péril soit imminent, mais un péril imminent, ce n'est pas un péril permanent. Et un droit d'exception, ce n'est pas un droit qui devient la règle. Donc il y a un effet pervers qui ressemble effectivement à ce qu'on a pu observer pour les États-Unis avec quelques années d'écart.
Et la mise en place d'une société de surveillance des deux côtés de l'Atlantique aussi quand même.
Alors la société de surveillance, elle vient non seulement de la manière d'articuler sécurité et liberté, c'est-à-dire de considérer que la sécurité passe clairement, nettement, avant les libertés. Mais la société de surveillance, elle nous vient aussi des nouvelles technologies. Il y a une sorte de rencontre. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est à la fois une extension à l'échelle mondiale d'un certain nombre de pratiques. Mais comme dans la mondialisation, les technologies nouvelles interviennent, ça fait un effet multiplicateur.
Oui, c'est un tout. On ne peut pas séparer l'une de l'autre.
On ne peut pas séparer l'une de l'autre et la surveillance généralisée, elle est possible parce que les nouvelles technologies le permettent. Au fond, c'est l'ambivalence de ces technologies. Elles permettent à la fois plus de démocratie d'une certaine manière, puisqu'elles donnent accès à tout le monde, à des informations qui jusque-là étaient réservées, mais en même temps, elles offrent aux États des instruments redoutables de surveillance et de contrôle. Aux États ou à des personnes privées, d'ailleurs, qui peuvent également utiliser les moyens de surveillance. Il y a une privatisation de la surveillance qui fait partie des phénomènes nouveaux.
Alors, en même temps, lorsque vous évoquez cette tension entre liberté et sécurité, c'est ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que c'est toujours pour tenter de réconcilier ou équilibrer ces principes et non pas pour déclarer que, par exemple ici, la liberté doit nécessairement primer totalement sur la sécurité. Il s'agit non de trouver un point d'équilibre, de conciliation et de sortie par le haut, je dirais, de ces tensions. C'est bien
ça. Oui, je parle de l'hypothèse que aucun de ces vents dominants ne doit rester seul par rapport aux autres. La sécurité sans les libertés, ben, c'est le totalitarisme. Mais les libertés sans sécurité, c'est le chaos. Et on peut dire la même chose pour les autres vents contraires, si on en parlera peut-être aussi, la compétition sans la coopération, mais c'est la loi du plus fort. Et la coopération sans compétition, ça peut être une certaine paralysie, une certaine atonie. Même chose pour l'innovation et la conservation. L'innovation seule, ça peut mener le monde à la catastrophe, mais la conservation seule, c'est aussi une forme de paralysie. Donc chaque fois, l'idée que je développe, c'est qu'il ne faut pas supprimer les contradictions en privilégiant un vent plutôt qu'un autre, mais il faut réguler les contradictions en faisant fonctionner les vents ensemble. Et pour réguler les contradictions, c'est curieux comme lapsus, pour réguler les contradictions, je propose de faire appel à des principes régulateurs, je reprends le mot, qui existent déjà. Alors, pour réguler la contradiction la plus visible, celle dont nous venons de parler, entre sécurité et liberté, il me semble qu'on ne peut pas se contenter de dire ben, on va faire une sorte de proportion, proportionnaliser l'un à l'autre.
Oui, donc vous dites que ça n'a aucun sens, d'ailleurs.
Ça n'a aucun sens, parce qu'on ne va pas quantifier ce que représente telle ou telle liberté par rapport à ce que représente la sécurité. En revanche, on a un principe régulateur qui pose une limite commune à la fois à la sécurité et aux libertés. C'est le principe d'égale dignité de la personne humaine, comme limite à ne pas dépasser. Alors précisément dans les affaires de terrorisme, cette limite a été dépassée quand on a admis la torture, qui est une atteinte éclatante au principe d'égale dignité de la personne humaine. Mais elle peut aussi fonctionner, ce principe d'égale dignité peut aussi fonctionner comme limite aux libertés, un usage abusif des libertés. Commercialisation du corps, par exemple, au nom de la liberté, oui, mais à ce moment-là, on heurte le principe d'égale dignité. Donc l'idée, c'est d'essayer de concilier les contraires apparents. Alors je dis, il faut remplacer le « ou » qui oppose par un « et » qui compose. Composer une réponse en conciliant les contraires apparents. C'est au fond un peu ça la logique du livre. Et c'est pour ça qu'il y a deux figures dans l'ouvrage. Il y a la figure de la rose des vents, où on retrouve les différents axes dont nous avons parlé. Et puis il y a la figure, je vois que le livre est ouvert à cette page-là, de ce que j'appelle la ronde des vents, et qui pour moi est peut-être plus important, parce que la rose des vents, on aurait tendance à penser c'est comme une boussole, on choisit d'aller au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Or, ce n'est pas ça que je veux dire. Il faut pouvoir aller à la fois au nord et au sud. En réalité, la ronde des vents, c'est l'idée de faire tourner l'ensemble pour trouver un équilibre qui est toujours instable, mais qui permet une stabilisation provisoire.
Oui, c'est un petit peu comme la marche, c'est toujours... Voilà, on trouve l'équilibre.
Exactement, c'est comme dans une danse. C'est pour ça que je parle de la ronde, ou la danse des vents. On est toujours un peu en déséquilibre, mais il y a une stabilisation qui se fait à travers le déséquilibre.
Peut-être que le second grand dossier qui traverse, presque comme un fil rouge, l'ouvrage, celui de la lutte contre les dérèglements climatiques et le réchauffement climatique, est plus intéressant quand on passe à la phase pratique et solution de votre ouvrage, car comme vous l'avez dit en introduction, au début de notre entretien, là il y a une ébauche de méthodologie pour concilier la compétition et la coopération qui se trouve au cœur de ce dossier.
Oui, et puis en même temps on peut dire aussi l'innovation et la conservation.
Oui, d'ailleurs c'est mieux comme axe, innovation et conservation.
On retrouve les deux. Alors, voilà. Effectivement, le dérèglement climatique est intéressant à observer. Enfin, les réponses au dérèglement climatique. Je ne vais pas entrer dans le débat sur la question de savoir si les climatologues ont tort ou ont raison, mais il semble bien qu'il y ait un puissant courant scientifique affirmant qu'une part importante du réchauffement climatique serait due à des activités humaines et que, par conséquent, les hommes peuvent avoir un impact sur la situation actuelle. Et puis, ce qui est aussi clair pour les climatologues, c'est que ce dérèglement climatique risque d'avoir des conséquences redoutables, à la fois pour l'humanité et pour l'ensemble de la planète et du monde vivant. Alors, je n'entre pas dans ces controverses scientifiques, mais je rappelle simplement cet arrière-plan. Cela étant dit, il ne suffisait pas qu'il y ait une alerte lancée par un groupe de scientifiques pour que les États bougent. Car la question est très sensible, elle touche quand même à la souveraineté nationale si on doit établir un droit commun et imposer des restrictions aux émissions de gaz à effet de serre. Ça touche à la souveraineté nationale et les grands États notamment, comme la Chine ou les États-Unis, sont très jaloux de cette souveraineté, de protéger cette souveraineté nationale.
Sans compter les grandes entreprises aussi.
Oui, alors les entreprises, c'est plus ambigu parce qu'elles ont bougé plus vite que les... En fait, il me semble que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, l'alerte a été lancée par des scientifiques, le GIEC, créé dans le cadre de l'Organisation mondiale de la météorologie, l'OMM, et lancée depuis pas mal d'années maintenant. Ces alertes ont été lancées depuis pas mal d'années. Il y a eu un relais dans la société civile, avec les organisations non gouvernementales. De nombreuses organisations non gouvernementales sont venues à l'appui des scientifiques. Et le mouvement a été suffisamment fort pour faire bouger les États. Et à ce moment-là, je dirais que les entreprises ont senti le vent tourner, peut-être. Et ont pris le tournant. Certaines d'entre elles, il y a eu, en 2015, il y a eu une mobilisation assez exceptionnelle parce que non seulement les scientifiques étaient mobilisés pour la plupart dans le sens de la lutte contre le réchauffement, mais la société civile était très présente. Et je pense aux églises aussi. Le pape a participé au débat de façon très, très importante avec son livre Laudato Si. Et les entreprises, de leur côté, ont commencé à tenir des colloques sur la nécessité d'une gouvernance mondiale du changement climatique et commencé également à proposer des budgets. Parce que tout cela, c'est aussi une question de budget. Si on veut décarboniser l'économie, ça veut dire des investissements considérables. Et il était donc important que les acteurs économiques puissants que sont les entreprises transnationales. Le budget d'un certain nombre d'entre elles dépasse celui de beaucoup d'États. Il est important qu'elles s'engagent. Et tout cela a fait bouger les États, puisque, à la grande surprise des commentateurs, l'accord de Paris a été adopté à l'unanimité, 195 États. C'est quand même quelque chose qui était imprévisible quelques mois auparavant. Très peu de gens y croyaient. On avait dit il y aura une majorité peut-être, mais certainement pas consensus de tous les États présents. Alors ce qui est intéressant au passage par rapport au début de notre entretien, à noter peut-être, c'est que cette COP21, comme on l'a appelée, la 21e conférence des États parties à la Convention climat, s'est tenue à Paris en plein état d'urgence, à un moment où on venait... La France venait de promulguer l'état d'urgence. Alors, est-ce que ça a joué psychologiquement ? C'est peut-être pas exclu, une sorte de façon de se rassembler autour d'un projet commun qui n'était pas la lutte contre le terrorisme, mais qui était la lutte contre le changement climatique.
En tout cas, un projet commun positif.
Il y a quelque chose qui a peut-être joué. Mais quoi qu'il en soit, l'accord de Paris a été donc adopté. Et la question était de savoir s'il allait entrer en vigueur. Alors, la question n'est pas encore résolue compte tenu des évolutions politiques américaines, notamment. Mais il n'empêche que les conditions posées par l'accord de Paris sont maintenant remplies, alors qu'on ne pensait pas qu'elles seraient remplies à temps pour la conférence suivante, qui est celle de Marrakech, la 22e conférence. Alors, quelles sont ces conditions ? Il fallait que 55 États au moins représentant 55% au moins des émissions de gaz à effet de serre et ratifier ou approuver l'accord de Paris pour qu'il entre en vigueur. À la fin d'été, fin août, on était encore très loin. Et peu de gens pensaient qu'on arriverait à ces conditions requises à temps pour Marrakech. Et puis finalement, il y a eu un effet d'accélération avec la prise de position commune de la Chine et des États-Unis, s'engageant à ratifier ou à approuver. Et effectivement, les deux grandes puissances ont ratifié ou approuvé l'accord de Paris en temps utile. Et du coup, ça a déclenché tout un mouvement d'ensemble. L'Inde a suivi, l'Union européenne, de façon un peu plus dispersée, mais avec un certain nombre de grands pays comme l'Allemagne ou la France, ce qui fait qu'on a atteint les conditions. Et donc cet accord de Paris est entré en vigueur. Tout le débat juridique à l'heure actuelle étant de savoir ce qui risque de se passer si les États-Unis se retirent. Alors là, je crois que personne ne peut faire de prévision. Il y a une incertitude, il faut le reconnaître. Mais l'issue de l'incertitude, personne n'est capable de la décrire.
Là, il y a aussi une incertitude sur la mise en œuvre effective des mesures par la suite. Alors là, il y a une ingénierie juridique qui est intéressante.
Alors là, c'est la question qui était très discutée à Paris et qui continue à être discutée maintenant, de savoir si c'était un accord contraignant. Alors contraignant, il faut savoir ce que ça veut dire, un accord contraignant. Et là, je passe souvent par l'expression en anglais. En anglais, il y a le hard law, le droit dur, et il y a le soft law. Mais le mot soft est pratiquement intraduisible en français par un seul mot. En réalité, ce qui n'est pas le droit dur, c'est un droit qui est imprécis, donc flou. C'est un droit qui est facultatif, donc mou. Et ou c'est un droit qui n'est pas sanctionné, donc doux. Le flou, le doux et le mou. Et il y a toutes sortes de manières de combiner les trois caractères. Alors, l'accord de Paris, il est flou. Il est flou parce qu'il est imprécis dans la mesure où il admet que les objectifs sont communs, mais que l'application de ces objectifs peut être différenciée. C'est le principe qui était posé depuis longtemps en matière climatique, mais qui est inséré dans l'accord de Paris, des responsabilités communes mais différenciées. Donc, on a un droit commun, mais il est différencié. Donc, il y a un peu de flou là-dedans. Est-ce qu'il est néanmoins contraignant? Alors, on peut dire oui et non. On peut dire oui parce que le texte est obligatoire. Les États doivent le respecter à partir du moment où ils l'ont ratifié. On peut dire oui, mais il n'y a pas de sanctions prévues au niveau international. Donc, il n'est pas mou, puisqu'il est obligatoire, mais il est doux. Et ça le rend peu contraignant. Là, le débat des juristes montre que l'analyse est plus complexe que ça. À partir du moment où les États s'engagent sur cet accord de Paris, en le ratifiant, il devient obligatoire à leur égard. Il n'y a pas de sanction au niveau international, c'est vrai. Il n'y a pas de juridiction. On avait souhaité la création d'une juridiction internationale. Pour l'environnement, elle n'a pas été créée et on avait aussi imaginé d'étendre la compétence de la Cour pénale internationale. Ça n'a pas été fait, ce qui n'exclut pas de temps en temps que la Cour internationale s'intéresse quand des crimes contre l'environnement sont associés à des crimes contre l'humanité, mais c'est de façon connexe. Donc il n'y a pas de sanction internationale perceptible, alors qu'il y en avait dans le texte précédent de Kyoto. On n'en a pas remis à Paris parce que les sanctions qui étaient prévues dans le protocole de Kyoto, n'ont pas marché. C'est-à-dire, quand elles ont été prononcées, l'État a dénoncé son engagement, a renoncé à son engagement, ce cas du Canada notamment, et d'autres pays. Donc là, on n'a pas mis de sanctions. Mais cela n'exclut pas le rôle du juge national. Car de plus en plus, les tribunaux nationaux se voient reconnaître la possibilité d'appliquer directement le droit international, donc de sanctionner. Un État qui, ayant pris un engagement international, ne le respecte pas. On commence à avoir des décisions un peu partout dans le monde. Il y a eu, en juin dernier, une décision d'un tribunal des Pays-Bas condamnant un État, l'État hollandais, pour ne pas avoir respecté un engagement qui avait été pris justement en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais avant l'accord de Paris. Donc, L'accord n'est pas contraignant au niveau international, c'est-à-dire il n'y a pas de sanctions prononcées qui puissent être prononcées par un juge international, mais il peut y avoir des sanctions par un juge national. Et puis, au plan international, il y a quand même un mécanisme qui s'appelle « name and shame », c'est-à-dire on rend visible, on donne une publicité aux violations de l'accord, de manière à ce qu'il y ait une sorte de stigmatisation portant sur l'État qui n'aurait pas respecté ses propres engagements. Donc vous voyez, on ne peut pas répondre par oui ou par non à la question « l'accord est-il contraignant ?» On ne peut pas dire qu'il soit totalement inapplicable, mais on peut dire qu'il apporte un élément important qui dépendra des pratiques. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut rester dans la perspective d'une approche dynamique. C'est un processus qui est en cours. On n'est pas au bout de l'histoire, dans ce domaine comme dans les autres d'ailleurs. Je préfère parler en termes de processus. Il y a un processus d'internationalisation du droit, vous voyez, on y revient, qui est en cours, qui est inachevé à l'évidence. Mais à l'évidence aussi, on est sorti du concept d'un souverainisme isolé. Un souverainisme pur et dur. Les États n'ont pas renoncé à leur souveraineté, mais peut-être, sans même s'en apercevoir toujours très clairement, consenti à l'idée qu'au lieu d'une souveraineté solitaire, on allait reconnaître une souveraineté solidaire. Solidaire, ça veut dire qu'on ne diminue pas la part de souveraineté de chaque État, je dirais au contraire, on l'augmente. C'est-à-dire que la souveraineté ne doit plus servir seulement à protéger les intérêts nationaux, mais aussi à protéger les intérêts communs, internationaux, communs, planétaires, les biens publics communs, si l'on veut. Et ça, c'est nouveau.
Et c'est justement ce que vous suggérez pour sortir du poteau noir, si tant est que nous y soyons déjà, ou pour éviter d'y tomber définitivement. Je crois qu'il y a trois séries de principes. Reconnaître les interdépendances, c'est un peu ce que vous venez de décrire, j'imagine.
Oui, alors c'est très important qu'il y ait reconnaissance. Les États sont devenus interdépendants en matière de climat, c'est évident. Même une superpuissance comme les États-Unis ou la Chine ne peut pas seule lutter contre le changement climatique. On pourrait dire la même chose d'ailleurs du problème des migrations, du problème du terrorisme global et des crises financières. Donc les interdépendances sont un fait, mais elles ne sont pas reconnues comme telles. Donc ce qui serait important, c'est la première condition effectivement que je pose, c'est que les États reconnaissent qu'ils sont interdépendants. Au fond, on a connu l'époque des déclarations d'indépendance. Eh bien, à l'heure actuelle, il ne serait pas absurde d'aller vers une déclaration d'interdépendance, parce que sur cette déclaration se fonde précisément un principe de solidarité.
Il s'agira aussi, dans ce cadre, vous le dites, de réguler les contradictions, car il ne suffit pas de reconnaître les interdépendances et de se fixer des objectifs communs. Quand on a dit ça, on est encore dans, les Américains diraient, le Woolsby. On souhaiterait que, mais ensuite il faut passer à la phase concrète. Et là, on a besoin de principes régulateurs.
Dites-moi. Oui, alors tout de même sur les objectifs communs, c'est déjà un progrès de les fixer de façon précise. Parce que dans la charte de l'ONU, il y a un objectif commun, c'est assurer la paix et la sécurité mondiale. Mais c'est tellement vague que ça n'entraîne pas beaucoup d'obligations, en tout cas insuffisamment. Alors en revanche, dans l'accord de Paris sur le climat, on a des objectifs qualitatifs et quantitatifs, c'est chiffré. Pour les objectifs quantitatifs, le niveau des émissions de gaz pour l'avenir. Et qualitatif, il y a toute la notion d'adaptation des sociétés au changement climatique. Donc, des objectifs communs, précis, ça c'est lié aux interdépendances, mais c'est quelque chose de très important comme condition d'organisation d'une gouvernance mondiale. Mais alors, vous avez raison, ensuite, il y a une deuxième condition qui nous ramène un petit peu à l'autre partie de l'entretien. C'est réguler les contradictions. Donc, admettre qu'il n'y a pas à choisir entre la sécurité et les libertés, entre la compétition et la coopération, etc., mais qu'il y a à les faire fonctionner ensemble. Et là, les principes existent, mais il faudrait qu'ils soient reconnus comme tels dans leur fonction régulatrice. Pour arriver à aller vers une gouvernance mondiale qui soit en réalité à la fois commune mais différenciée. Et là, je crois qu'on a un concept qui est utilisé par l'accord de Paris à propos du changement climatique, mais qui est valable pour tous les problèmes globaux. On ne peut pas avoir des solutions uniformes à l'échelle de la planète. Donc, ça, c'est ce qui rejoint le principe régulateur que j'appelle le pluralisme ordonné. On a besoin à la fois d'un ordre, d'une certaine harmonie entre les systèmes nationaux et d'une pluralité pour éviter d'éradiquer toutes les différences. Le contexte de chaque État est important dans la manière d'appliquer le droit commun.
Mais sinon, on sombre dans une autre forme de totalitarisme mondial de surcroît. Si on veut que tout soit identique partout.
Voilà. Si on impose à tout le monde une règle uniforme, heureusement, c'est probablement infaisable. Mais si ça devenait faisable, grâce notamment aux nouvelles technologies et par une sorte de prise de pouvoir d'un État qui serait la superpuissance, quand on a plusieurs superpuissances, ça va bien. Mais s'il y en a une seule qui prend le pas et qui peut imposer son système, sa règle de droit au monde entier par le jeu des nouvelles technologies de surveillance et de contrôle, alors il y aurait un risque. Et je crois que ça rend d'autant plus nécessaire d'admettre qu'une gouvernance mondiale, ce n'est pas une gouvernance uniforme. C'est une gouvernance qui s'organise autour d'objectifs communs, qui utilise des principes régulateurs communs, mais qui laisse des marges, qui laisse des différenciations possibles. Alors, cette notion de responsabilité commune mais différenciée, elle a souvent été mal comprise à propos du protocole qui a précédé l'accord de Paris, qui était le protocole de Kyoto. Parce qu'en fait, on l'a mal appliqué. On a dit, responsabilité commune mais différenciée, on va différencier deux catégories, les pays industrialisés et les autres. Les uns s'engagent, les autres ne s'engagent pas. C'était une vision très réductrice. En réalité, responsabilité commune mais différenciée, ça veut dire... Les objectifs sont communs, mais on tient compte du contexte de chaque État. Alors, contexte économique, contexte historique, contexte politique, contexte géographique, il y a des pays plus vulnérables que d'autres, etc., pour mettre en œuvre ces objectifs communs. Et ça entre dans ce principe régulateur très important qui est le pluralisme ordonné.
Alors, vous en arrivez à une autre notion, celle de substituer ou d'ajouter... Je ne me souviens plus, à la trilogie traditionnelle qui est celle de séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, bien sûr, une nouvelle trilogie. Vous pouvez nous parler de cela ?
Oui, alors ce que je constate, c'est que là aussi, en partant de l'exemple du changement climatique, je constate que, on l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, les avancées se sont faites pas à partir des États, pas à partir des pouvoirs politiques, ni même à partir des pouvoirs économiques seuls, mais à partir des savoirs, le savoir des experts, le savoir des climatologues, des scientifiques, et à partir de ce que j'appelle les vouloirs, c'est-à-dire les volontés des citoyens, de la société civile, que ce soit les organisations non gouvernementales ou les citoyens isolés presque. L'idée d'une citoyenneté du monde qui apparaît avant un gouvernement du monde me paraît intéressante. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est l'articulation savoir, vouloir, pouvoir qui peut faire bouger les choses et conduire à une gouvernance mondiale plus équilibrée. Et je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est un peu surprenant d'une certaine manière, parce que ça consiste, au fond, ce que je viens de dire, c'est une manière aussi de considérer que ce sont les acteurs les plus faibles en apparence. Le citoyen lambda, qui apparemment n'a aucun pouvoir politique ni économique, et ce sont les citoyens les plus faibles qui, avec l'aide des scientifiques, ont fait bouger les grands acteurs puissants que sont les États ou les entreprises transnationales. C'est intéressant au passage. Ce sont les plus faibles qui font bouger les choses.
Au passage, et ça peut peut-être constituer une conclusion, Il faudra bien veiller aussi, et vous le dites à plusieurs reprises, à faire en sorte que chacun de ses pouvoirs soit limité. Il y a cette notion de limite qui traverse votre ouvrage. Retrouver des limites, et même pour chacun de ses pouvoirs. Je pense par exemple au savoir. Le pouvoir des savants, aujourd'hui, mérite probablement aussi d'être limité.
Oui, vous avez raison. En fait, tous ces acteurs que j'ai décrits doivent être responsables eux-mêmes. Donc il y a des risques de conflits d'intérêts pour les savants, pour les experts. Dans certains domaines pointus, d'ailleurs, il y a presque nécessairement des conflits d'intérêts parce qu'il y a très peu de spécialistes, donc ils sont à la fois appelés comme experts et appelés comme spécialistes. Donc il y a une nécessité de responsabiliser non seulement les pouvoirs État et entreprises, pouvoir politique et pouvoir économique, mais responsabiliser les savoirs, les scientifiques, et responsabiliser les citoyens, parce qu'il y a aussi des conflits d'intérêts au niveau des organisations non gouvernementales. Donc il y a tout un travail, une déontologie, d'une certaine manière, de l'expert, une déontologie de l'organisation non gouvernementale qui devient nécessaire. Et plus leur rôle devient visible et parfois déterminant, plus cette mise en place d'une responsabilité devient urgente. Donc il y a toute une réflexion par-delà les quatre vents du monde sur responsabiliser les acteurs et tous les acteurs.
Si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce pouvoir un peu étrange qui est celui du savoir ou des savoirs dans cette volonté d'instaurer une gouvernance mondiale. Je ne dis pas de votre part, mais aujourd'hui, tel qu'on l'observe se mettre en place, n'y a-t-il pas un risque de mise en place d'une sorte de gouvernement des experts, en quelque sorte, et des savants, qui primeraient ? Est-ce que ce n'est pas le plus dangereux des trois ?
D'une certaine manière, si vous avez lu à la fin de mon livre, j'ai fait un petit apologue que j'ai appelé « Au congrès des vents » en m'inspirant d'un poème d'Édouard Glissant. Et j'ai, au congrès des vents, j'ai fait intervenir tous les grands acteurs de la mondialisation. Alors, il y a les États, il y a les organisations internationales, il y a les envoyés du ciel, il y a les représentants de la défenseurs de la Terre. Et quand ils arrivent sur le lieu du colloque, c'est un grand colloque international, quand ils arrivent sur le lieu du colloque, ils voient qu'il y a un groupe qui est déjà là et qui a commencé à régir le monde. Ce sont les grands savants, justement, qui sont... Alors, c'est un peu surprenant parce qu'en général, ils passent pour des gens peu pratiques, un peu perdus dans leur nuage. Mais en réalité, ils ont déjà une forme d'ubiquité. Ils communiquent déjà entre eux à l'échelle mondiale. Ils sont déjà super organisés à l'échelle mondiale. Et ce sont eux qui sont arrivés, en fait, les premiers. Le prince des algorithmes, des harmonies célestes. Donc, le risque est réel, d'autant que les nouvelles technologies vont dans ce sens.
Au fond, tout ça, vous avez le principe central de cette gouvernance, si on ne devait en garder qu'un, c'est bien celui de dignité humaine.
Ça dépend de la vision que vous avez de l'humanité. Alors, est-ce qu'on met l'homme au centre ? J'ai une hésitation quand j'ai réfléchi sur la ronde des vents, en me disant s'il y avait un pôle magnétique, le pôle magnétique serait au centre. Il n'est pas au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il est au centre. Mais qu'est-ce que ce pôle magnétique ? Qu'y a-t-il au centre de ma rose ou de ma ronde ? Et là, je pense que selon la conception qu'on se fait du rôle de l'humain dans l'organisation du monde, on met l'homme effectivement au centre. Ça correspond en gros à l'humanisme de séparation, mais aussi de domination, qui a cours depuis la Renaissance. Ou alors, on considère que l'homme est dans un écosystème, qu'il est lui-même interdépendant. Il y a des interdépendances entre l'homme, la nature et l'ensemble du monde vivant. À ce moment-là, je ne vais pas, comme les courants post-humanistes, mettre en cause l'homme en tant que tel, mais je mettrai à ce moment-là au centre le principe de la solidarité planétaire. Et comme il me paraît difficile de choisir entre l'égale dignité des êtres humains et la solidarité planétaire, je propose de mettre les deux au centre.
Très bien. acceptée. Proposition acceptée.
Ben me voilà soulagée.
Si la dignité humaine reste au centre, eh bien alors cette mondialisation pourra peut-être elle-même retrouver un visage humain qu'elle n'a pas toujours aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir ébauché toutes ces pistes. C'est un immense travail. Il s'accomplit déjà sous nos yeux quand même, j'ai l'impression, puisque vous avez à la fois décrit et fait de la prospective, si j'ai bien compris. Et c'est rassérénant. Et je propose à chacun de nos auditeurs qui souhaitent décrypter cette mondialisation, y naviguer et l'imaginer avec donc un visage plus avenant, de se plonger sans plus tarder dans l'ouvrage de Mireille Delmas-Marty, « Aux quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation ». Le seul congrès des vents mérite déjà à lui seul l'achat de ce livre. Merci beaucoup Mireille Delmas-Marty.
Merci à vous. Thank you.